kulipisha kisasi na kuyarudisha maendeleo nyuma. Mazungumzo ndicho kiti cha amani, kimya na upendo ni sabuni ya roho.
L'information est un élément de connaissance, alors soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres, condamnation à mort de Joseph Kabila, les réactions sont toujours recensées. Cette condamnation est une décision politique qui sera résolue politiquement avec ceux qui accéderont au pouvoir en 2028 après le mandat du président Félix Tshisekedi. Ainsi réagit Bernard Zagabe, un des cadres du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD Sud-Kivu. La journée mondiale des personnes de troisième âge a été célébrée ce mercredi 1er octobre 2025. Des messages ont été lancés par plusieurs personnes et structures allant dans le sens de demander une attention particulière à l'endroit des personnes de troisième âge pour qu'elles se sentent utiles et valorisées. Suite à un éboulement de terre sur avenue Mulungulungu 1er à Panzi entraînant la coupure d'une conduite, depuis mardi dernier le soir, une bonne partie de ce quartier et du quartier Chahi en commune de Bagira est dépourvue d'eau potable. Les endroits concernés par la pénurie sont Mulungeza 1er et 2, Major Vangu et Chahi. La régie des eaux précise que les travaux y seront lancés incessamment. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
La coalition Lamuka prend acte du verdict de la haute cour militaire qui condamne à mort le président honoraire de la RDC et souligne que le deal conclu entre Kabila et le régime actuel en 2018 continue à plonger la RDC dans les troubles. Maintenant, la condamnation doit laisser place à la vérité, la réconciliation, la cohésion et la réparation, car en enfer congolais, il n'y a pas de saint, dit Prince Epenge, un des communicateurs au niveau national de la coalition Lamuka. Et la condamnation à mort du président honoraire Joseph Kabila est une décision politique qui sera résolue politiquement avec ceux qui accéderont au pouvoir en 2028 à l'expiration du mandat de l'actuel président de la République. Telle est la réaction de Bernard Zagabe, cadre du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD, formation politique de Joseph Kabila. Elle intervient au lendemain de la condamnation par la haute cour militaire de l'ex-président de la République accusé de prendre les armes contre la République et de surcroît d'être le chef de l'AFSAM-23. Bernard Zagabe précise que cette décision ne surprend en rien le PPRD qui s'y attendait. Le PPRD attend de pied ferme 2028 pour voir un Congo nouveau rangé derrière Joseph Kabila. Bernard Zagabe au micro de Radio Mandeléo.
Il n'y a rien de surprenant. C'était prévisible parce que ce n'est pas une décision judiciaire, c'est une décision politique. Tout le monde savait, le ministre lui-même de la Justice a dénoncé des irrégularités sur cette procédure avant même que le jugement soit rendu. C'est une machination pour chercher à bloquer le président Kabila et penser que ça va nous frustrer. Comme c'est une décision politique, elle sera résolue politiquement. Nous sommes sur un terrain de dire que 2028, nous allons nous débarrasser du président Félix. Les autres questions de condamnation, nous allons y revenir avec des dirigeants responsables. Et donc, nous ne pouvons pas prendre tout notre temps pour tomber dans le piège de ceux qui ont pensé qu'en condamnant le président Kabila, ils vont nous disperser. En tout cas, ils se sont trompés des cibles. Nous, nous sommes très engagés. Nous avons une vision pour le nouveau Congo autour d'un leader bien connu, l'unique et le seul sénateur à vie que nous avons.
Bernard Zagabe, cadre du PPRD Sud Kivu. Et la société doit faire participer les personnes de troisième âge dans la gestion afin qu'elles se sentent utiles et valorisées. Cette recommandation a été formulée au cours d'une activité organisée le 1er octobre par l'Union des personnes des troisième âge à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des personnes de troisième âge. À cette occasion, les cinq principes pour alléger la misère des personnes de troisième âge ont été enseignés aux participants afin de susciter faciliter leur accompagnement aux personnes de cette catégorie. Parmi ces principes figurent l'épanouissement des personnes de troisième âge et leur accompagnement dans des activités agro-pastorales qu'elles mènent. Cela intègre le fait de les épargner des différentes taxes et impôts afin de leur permettre d'évoluer et ainsi leur éviter la mendicité. Plusieurs défis auxquels font face ces personnes ont également été évoqués lors de cette cérémonie, d'où l'appel à plus d'attention à leur égard. Thérésie Léontine, conseillère au sein de l'Union des personnes de troisième âge, en parle dans cet élément.
Je sollicite aux gens de bonne volonté, aux gens de bonne foi, aux gens qui peuvent avoir quelque chose, qu'ils puissent aider ces gens à leur donner ce qu'ils peuvent avoir. On ne leur demande pas grand-chose parce qu'ils ont besoin d'un sourire, d'un accompagnement, même du sel, même du savon pour eux, c'est grand-chose. Alors que ces gens qui peuvent avoir quelque chose, qu'ils puissent leur venir en aide. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est leur journée internationale. Et pour leur journée internationale, d'eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. Mais quand nous allons vers eux, et avec ça, ils se sentent un peu épanouis, ils se sentent un peu soulagés dans leurs souffrances.
Thérésie Léontine au micro de Radio Mandeléo. Les personnes de troisième âge du groupement de Bougouré en particulier et du territoire de Kabaré en général nécessitent une attention particulière au regard de la situation qu'elles traversent. C'est ce qu'indique Pascaline Akonkwa de la Solidarité pour la Santé Assurée de tous, SOLSAT en sigle à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, disons des personnes de troisième âge célébrées le 1er octobre de chaque année. Représentant la coordinatrice de la SOLSAT empêchée, Pascaline Akonkwa fait savoir que les personnes de troisième âge sont stigmatisées et parfois abandonnées à leur triste sort et cela anticipe leur mort. Pascaline Akonkwa au micro de Jean-Claude Bissimois, notre correspondant de l'Axe Mitsimoresa.
L'objectif poursuivi pour la journée d'aujourd'hui, c'était d'abord des collaborer avec les vieillards. Les vieillards sont aussi des vulnérables. C'est s'imprégner de leur situation. Vous savez que dans notre société, les vieillards ne sont pas considérés convenablement. S'il n'a pas des enfants qui ont des moyens financiers, qui ont aussi l'amour envers leurs parents, vraiment les vieillards sont délaissés. Ils sont abandonnés dans la société. Il y a même des vieillards qui sont des quémandaires, des vieillards qui n'ont pas de stabilité. Peut-être ils n'ont pas même la force d'aller se faire soigner, de se laver, de la propriété et même dans la société ne sont pas considérés.
Les participants ont été soumis au dépistage des maladies chroniques avant de leur distribuer des vivres composés essentiellement du sucre et du savon. L'activité a réuni environ 200 personnes de troisième âge dans l'église de la 8e CEPAC Boulouro de Kavumu. Et cela fait déjà un mois et deux jours que les activités ont été suspendues dans le site de l'Omera, en groupement de lui en territoire de Kabaré par le gouverneur de province sous la FCM 23, Boussou Bouangoui Chombo Patrick. À la suite de cette suspension, tous les acteurs intervenant dans la chaîne d'exploitation de l'or dans ce site ainsi que d'autres investisseurs exerçant des activités connexes ont été sommés de quitter les lieux en attendant les nouvelles directives des autorités. La suite avec Omer Moudekereza.
Depuis lors, aucune activité n'est autorisée officiellement dans ce site, même si certaines sources parlent d'une entrée clandestine de certaines personnes dans les carrés miniers en complicité avec des responsables hautement placés. Alors que la communauté locale vivait essentiellement de l'agriculture, l'élevage et la pêche, la découverte des substances minérales a fait que toutes les terres soient destinées aux activités minières et connexes. Ainsi, les habitants ont été obligés de s'adapter pour vivre désormais des activités commerciales et autres. Avec la suspension des activités, ces autochtones ne savent plus à quel sens se vouer. On dit que Gide Sanzira porte-parole des concessionnaires et la notabilité locale de l'Omera. Il indique également que la suspension de tout trafic des embarcations sur le lac Kivu en direction de Louis l'Omera est venue asphyxier davantage cette population déjà en difficulté. Égide Sanzira appelle les autorités à accélérer le processus visant à rouvrir les activités dans ces sites miniers et autoriser l'embarcation des bateaux et autres embarcations au port local de l'Omera pour approvisionner les habitants. On l'écoute.
Si le plan socio-économique, ça ne va pas. Parce que nous, en tant que communauté locale, nous vivons dans une misère, dans la famine, dans la pauvreté, depuis la suspension des activités. On a interdit l'accostage des bateaux et des pirogues motorisées et toutes les autres activités. La population n'avait plus où cultiver, où élever, parce que c'était là des principales activités. Mais avec la découverte des minéraux dans notre milieu, Nous, en tant qu'autochtones, on ne savait plus se livrer à l'agriculture ni à l'élevage parce que toute notre terre était déjà occupée par nos compatriotes. Alors aujourd'hui, on ne sait plus vivre. Nos yeux sont tournés vers les autorités de l'AFC M23 pour revenir à leur décision de suspendre les activités à l'Omera. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous aurions souhaité que l'autorité vienne en aide d'abord la communauté locale, d'autoriser qu'il y ait d'abord l'accostage des bateaux, des pirogues motorisées pour l'approvisionnement en vivres et non-vivres, mais aussi avec la reprise des activités minières à l'Omera.
Contacté, des sources proches de la commission mise en place pour la relance des activités dans ces sites d'exploitation artisanale des minerais appellent les habitants à la patience, indiquant que le processus est en cours, mais tout devra commencer par l'enregistrement. D'autres sources ont dit que la question est traitée auprès de la haute hiérarchie de l'AFC M23 qui devra donner des directives à prendre avant toute action de réouverture des activités dans cette partie du Sud Kivu.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Les sinistres des incendies survenus il y a plusieurs mois dans le quartier Nyakaliba en commune de Kadutu continuent de vivre dans des conditions précaires. Plus de 459 ménages restent sans assistance, exposés à des risques sanitaires croissants, particulièrement en cette saison des pluies. L'alerte est de Faustin Buroko, chef de quartier Nyakaliba, dans un entretien avec Radio Mandelo. Celui-ci indique que le vécu quotidien est difficile pour ces familles dépourvues de logements, des soins, des nourritures et de soins de santé. Faustin Buroko alerte également sur les cas de maladies déjà observés parmi les victimes en raison des conditions de vie insalubres. Face à cette situation, le chef de quartier Nyakaliba lance un appel aux autorités provinciales, aux partenaires humanitaires et aux personnes de bonne volonté pour qu'ils viennent en aide ces sinistrés. Il plaide non seulement pour une aide d'urgence, mais aussi pour des actions durables, notamment la réhabilitation des sites incendiés et la mise en place d'un plan de relogement pour éviter des nouvelles tragédies. Faustin Buroko.
Nous avons assisté à plusieurs incendies pendant la saison sèche, principalement dans l'avenue Kadurandate du 3, dans l'avenue Kadurandate du 16, et d'autres incendies dans l'avenue Mandelo en date du 9, date du 23, ainsi de suite, dans l'avenue Docteur Lourou. Mais aujourd'hui, tous ces sinistrés subissent d'énormes dégâts. Ils passent la nuit sans manger. Ils sont sous la belle étoile, donc ils n'ont pas comment s'abriter. Maintenant, ils vivent avec une grande misère. Ces gens souffrent beaucoup avec des intempéries. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont jamais été assistés dès lors jusqu'à maintenant. Et surtout pendant cette période de pluvieuse, ils se disent comment rester au site alors qu'ils passaient la nuit là-bas avec du bâche, des tôles usées. Et par là, je lance un cri d'alarme, un cri d'SOS, que toute personne puisse voir ce qu'il peut apporter. Comme on a toujours dit, que la belle femme ne donne que ce qu'elle a.
Tant Buroko, chef de quartier Nyakaliba, et une bonne partie du quartier Panzi, à savoir les avenues Mulengeza 1 et 2, Bizimana et Major Vangou en commune d'Ibanda, ainsi que le quartier Tchaï dans la commune de Bagira sont sans eau depuis la soirée du mardi 30 septembre dernier. Ceci fait suite à un éboulement de terre qui s'est produit sur avenue Mulungulungu 1er, provoquant la coupure de la conduite principale qui assure l'approvisionnement en eau dans cette partie de la ville de Bukavu qui compte des milliers d'habitants. Précision avec Myriam Mufano.
Des sources de la société civile locale ont dit que cet éboulement a provoqué une forte fuite d'eau jusqu'à affecter les maisons dans ses alentours. Actuellement, au moins 3 familles ont dû abandonner leur habitation suite à la pression de cette eau qui a aussi endommagé plusieurs biens. Des habitants de la place plaident pour une intervention urgente de la régie des eaux afin de réparer cette panne et ainsi sauver d'autres habitations menacées et desservir les populations en eau potable. On écoute le témoignage d'un habitant de la place qui parle des dangers que courent les populations dans cette partie de la ville de Bukavu.
Dans une avenue qu'on appelle Dogobo, la population a été victime d'une destruction des longs des tuyaux de la régie des eaux Mercicor qui, en voulant se faire des chemins, a détruit des maisons et les gens qui sont dans ces habitations sont en train de vivre très difficilement. Leurs biens sont emportés par l'eau, leurs maisons sont en danger de destruction. Si l'autorité pourrait faire des enquêtes, ils pourront passer pour voir la vie que mènent ces habitants-là. L'eau est en train de suinter sous leur maison. Il y a même là-bas des toilettes qui sont déjà enfermées par les eaux, des maisons inhabitables déjà.
En réaction, le chef du service de distribution à la régie des eaux Sud Kivu, Bazishula Mushagalu Satoricelli, indique que cette panne est faite suite à une exploitation illicite de pierre dans un site de la place activée qui a provoqué cet éboulement. Il précise néanmoins qu'une étude est déjà faite et les travaux s'est relancés incessamment. Bazishula Mushagalu Satoricelli en parle.
Nous avons déjà effectué une descente et on a fait l'étude. Les travaux sont déjà programmés. La raison majeure qui aurait fait que la conduite est partie, c'est qu'il y a eu exploitation illicite des pierres sous la zone où passe cette conduite là-bas. La conduite ayant perdu sa base qui est le sol, et cela fait qu'il y a eu fuite. C'est que nous devons intervenir le plus urgentement possible. On est en quête de matériel déjà. À la population de Bukavu, c'est concernant les constructions anarchiques qui sont érigées par-ci par-là sur les conduites d'eau de la régie des eaux. Cette situation nous met en mal parce qu'on n'arrive pas à faire des interventions urgentes. Et parfois même, quand nous intervenons, c'est plus compliqué. Nous leur demandons de cesser cette pratique et nous en appelons aussi à la conscience des autorités aussi qui ont la charge d'interdire ce genre de pratiques.
Il continue à appeler les abonnés à protéger les installations de la régie des eaux, ne pas construire sur les conduites d'eau et dénoncer tout cas pouvant perturber le travail de distribution de l'eau dans la ville de Bukavu.
Et avec vous, Alain Kabika, les élèves de l'Institut Mukungwe situé dans le village Chiumba, groupement d'Ikoma, en territoire de Walungu, étudient dehors depuis le dimanche 28 septembre 2025. Ceci après que des fortes pluies accompagnées d'un vent violent aient emporté la toiture des salles des classes de cette école, en croit le préfet de cette institution scolaire dans un entretien avec Radio Mendeleo.
Biamungu Makali Etienne explique que ces pluies ont également endommagé les pupitres, les tableaux, les murs des salles des classes et autres matériels pédagogiques. À ce jour, ajoute notre source, les élèves suivent les cours, certains dehors et d'autres dans des abris aménagés à l'aide des feuilles d'arbres, tout en restant exposés aux intempéries. Ainsi, les élèves ne savent plus étudier au-delà des 10 heures lorsque les rayons solaires sont piquants ou encore lorsqu'il pleut, regrette le préfet de l'Institut Mukungwe. Biamungu Makali Etienne demande aux autorités, aux partenaires et autres personnes de bonne volonté à venir en aide son école afin que les élèves étudient dans de bonnes conditions. On l'écoute.
Toutes les tôles ont été froissées. Les enfants sont en train d'étudier sous le soleil. Les conséquences sont incalculables parce que, arrivés même à la deuxième heure, ils sont en train de solliciter que réellement ça ne va plus. Et il suffisait seulement même qu'il y ait même une rosée. En tout cas, les enfants sont en débandade. Donc, nous lançons un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté de pouvoir nous venir en aide pour sauver réellement l'année scolaire de ces enfants ici. C'est ça la situation actuelle. On ne sait pas où commencer. Nous sommes tellement limités par rapport aux moyens financiers. Nous sommes une école NP, non payée. Les enseignants n'ont pas de salaire. Ils viennent ici pour uniquement se sacrifier aider par amour patriotique. Voilà la catastrophe maintenant qui vient encore une fois de nous frapper. On ne sait pas comment nous allons nous comporter. Personne de bonne volonté de pouvoir intervenir pour que ces 254 Congolais, jeunes Congolais en train de souffrir, puissent quand même encore trouver là où ils peuvent s'asseoir et suivre les cours dans de bonnes conditions.
Signalons que l'Institut Mukungwe est une école conventionnée protestante de la 5e SELPA, située dans la sous-division éducationnelle Walungu 1. Créée en 2013 et agréée par l'État congolais depuis 2018, cette école organise l'option vétérinaire et l'option agronomie générale. Elle compte à ce jour 254 élèves, dont 80 filles et 174 garçons, à en croire son préfet Biamungu Makali Etienne.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Dans une correspondance adressée à la Ligue nationale de football le mardi 30 septembre, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a instruit le nouveau comité de la LINAFOOT de procéder au lancement officiel de la saison sportive 2025-2026 du championnat national. Cette décision intervient dans un contexte particulier. Lors de l'édition 2024-2025, la compétition avait démarré avec plusieurs mois de retard, perturbant non seulement le calendrier des clubs engagés, mais aussi leur préparation sportive et financière. Certains représentants congolais en compétition interclub africaine avaient ainsi entamé leur campagne sans véritable rythme de compétition. Consciente de ces dysfonctionnements, la présidente du comité de normalisation Connor, Belinda Lutandi, l'a rappelé l'importance de mettre en place une organisation plus stricte. Elle insiste sur la publication dans les délais du calendrier officiel de la saison et du règlement de la compétition afin de donner de la visibilité à tous les participants. Au-delà de l'aspect technique, la responsable du CONOR met également l'accent sur la nécessité d'une planification budgétaire adéquate. L'objectif est de permettre au club ainsi qu'à la LunaFoot elle-même découvrir correctement les charges liées aux déplacements, aux frais logistiques et aux engagements administratifs. La présidente a aussi rappelé que le rôle du nouveau comité de la LunaFoot sera déterminant dans le redressement de la crédibilité du championnat national longtemps critiqué pour ses irrégularités et ses arrêts brusques, lit-on sur le site d'information 7sur7.cd.
La revue de presse, Radio Mindélé au Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La presse revient sur le verdict de la haute cour militaire de Kinshasa dans le procès opposant le ministère public à l'ancien président de la République Joseph Kabila. Hélène Naboudjiriri pour la revue de presse.
Commençons avec Africa News qui titre en sa une « Joseph Kabila condamné à la peine de mort ». Jugé à son absence et sans défense, révèle cet hebdomadaire, l'ancien chef de l'État congolais était poursuivi pour trahison et crime contre la paix et la sécurité de l'humanité en lien avec les groupes Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ce portail rappelle que ce procès ouvert le 25 juillet s'est concentré exclusivement sur son rôle dans les soutiens à l'AFC M23 et non sur sa gestion passée du pays. Ce tabloïd précise que les réquisitoires prononcés par Jean-René Likulia, auditeur général, a dressé une liste accablante. Viol, torture, déportation, homicide, trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Le journal Le Quotidien rapporte que la haute cour militaire condamne aussi l'ancien président à verser d'importants dommages et intérêts. Plus de 33 milliards de dollars pour l'État congolais, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que des associations d'aide aux victimes. Info 27 indique que les parties civiles à ces procès avaient demandé la reprise de l'instruction afin de produire de nouveaux témoins, mais ceux-ci ne se sont pas finalement pas présentés. Selon ce quotidien, ce jugement intervient dans un contexte de violence accrue dans l'est de la RDC où le M23 a pris le contrôle de Goma et Bukavu en début d'année. Info 27 estime également que ce procès marque un tournant dans la justice congolaise et dans la responsabilisation des anciens dirigeants face aux crimes de guerre et aux mouvements insurrectionnels, envoyant un signal fort sur la souveraineté de l'État et la lutte contre l'impunité. Alors que la haute cour militaire vient de condamner Joseph Kabila à la peine capitale, écrit Le Potentiel, les pourparlers en vue de la paix se poursuivent entre le gouvernement et la coalition AFC M23 qui soutiendrait Joseph Kabila. Dans l'hypothèse où Joseph Kabila serait le véritable patron de ces mouvements, fait savoir ses quotidiens, sa condamnation pourrait impacter, dans un sens comme dans l'autre, la suite du processus de négociation en cours à Doha. Ce portail estime que l'application de la condamnation contre Joseph Kabila risque de rester lettre morte, sachant que l'ancien chef de l'État évolue loin du périmètre du pouvoir de Kinshasa. Dans un communiqué officiel publié quelques heures après l'annonce de la sentence par la haute cour militaire, signale la référence plus, le Front commun pour le Congo a fustigé une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Avec un ton grave, note ce quotidien, les regroupements politique de Joseph Kabila parle d'une tragicomédie judiciaire, d'un meurtre annoncé et d'une volonté délibérée de diriger le pays par la peur et l'intimidation. Cité dans les colonnes de ces portails, le Front commun pour le Congo, sans se douter de rien, affirme que cette décision prise à l'encontre de l'ancien président de la RDC dépasse le cadre d'un simple procès contre un individu. Cité dans les colonnes de Congo Nouveau, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPR, Emmanuel Ramazani Shadari qualifie les verdicts de ces procès de vastes blagues. Nous avons toujours dit qu'il s'agit d'un procès politique, fin des citations. Pour le Front commun pour le Congo, FCC, poursuit cet hebdomadaire la condamnation qui, au terme d'une procédure illégale, debout en bout, vient d'être prononcée contre son autorité morale. Ces jours n'est pas seulement celle d'un homme, ancien président de la République, soit-il, mais également et surtout celle de l'État, des droits et de toutes les conquêtes démocratiques obtenues des hautes luttes pour notre peuple depuis bientôt deux décennies.
Par ici prend fin ce radio-journal. Jean-Claude Ndagué a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. Passez des beaux moments en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.